moment, nous sommes sur Allegre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et ce matin, c'est notre chroniqueur Frédéric Gourmet, auteur de La métaphysique du rock paru aux éditions L'Irrémissible, qui va nous présenter notre invité. Bonjour, monsieur Gourmet, à vous.
Bonjour Yves, et merci de nous recevoir. Aujourd'hui, c'est pas un plaisir, hein, c'est pas un privilège, ce n'est pas un honneur, mais une joie, et même une très grande joie, que de recevoir Jean Felzine, le leader du groupe Mustang, qui vient de sortir Mega Phoenix chez Vietnam La Brea, leur cinquième album, et qui est une vraie réussite, aussi inclassable qu'inusable. Je dis ça personnellement parce que j'en suis à peu près à 50 écoutes, comme pourra en témoigner mon lecteur. Jean Felzine, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par le titre. Pourquoi Mega Phoenix ?
Alors, c'est un titre assez idiot, hein, mais c'est voulu. C'est-à-dire qu'on sortait d'un album qui s'appelait Memento Mori, dont on pensait réellement que ça allait être le dernier. Ça n'allait pas fort, franchement. Il n'y avait plus de label, il n'y avait plus d'intérêt, il n'y avait plus de... C'était compliqué. On s'est dit, cinquième, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on est très fans, surtout Johan et moi, Johan Gentil, le bassiste, et moi, de jeux vidéo, qui est une influence profonde, même musicale, sur ce qu'on a fait. Et Mega Phoenix, c'est un objet dans un Final Fantasy qui ressuscite les trois membres de l'équipe. Donc on trouvait ça marrant, simplement. D'accord. Puis on se disait, c'est facile à le mot n'est pas commun, donc c'est facile à référencer, c'est rigolo. Une petite pique à Phoenix aussi, voilà.
Ah, le groupe de rock ouais. Français, qui marche très fort dans le monde, on va le dire.
Oui.
Et qui fait une musique
enfin, français, c'est un groupe... Est-ce que c'est un groupe français ?
Non, ils sont versaillais. Mais
non, mais je veux dire,
oui,
groupe,
j'ai bien compris.
Mais il y a des super chansons, mais c'est un groupe continental, comme on dirait, d'un petit déjeuner continental. un groupe mondialiste, très bien. Mais...
Ouais. Oui, un groupe pas très intéressant quand même. Alors, c'est dans vos paroles, hein, vous le chantez, Mustang, ça ressemble de plus en plus à une croisade.
Oui, alors c'est vrai que... Plus ça va, plus j'ai tendance à voir les choses comme un défi ou comme un... Oui, peut-être, un peu une lutte, ouais. Mais c'est par la force des choses, parce que rien n'a jamais été facile, donc, et ça s'arrange pas, donc c'est le rôle que le destin nous a alloué.
Oui. Je me permets d'en parler parce que c'est l'objet de vos chansons, de
certaines,
textes.
Oui.
Certaines, oui, voilà.
Mais je pense qu'on en a fini avec ça.
Voilà, très bien. Et puis en plus, finalement, c'est pas nouveau parce que dès le premier album A71, vous chantiez en pop synthétique, c'est fini. Oui. Du temps, je n'en ai plus. Je ne veux plus chanter, je ne veux plus jouer. Je voudrais pouvoir tout oublier, tout ça. C'est trop tard, voilà, c'est fini. Donc dès le premier album, l'envie de raccrocher était déjà là.
C'est marrant, vous parliez de cette chanson. En fait, cette chanson-là, elle vient d'une mauvaise interprétation d'une chanson de Lou Reed qui s'appelle Sad Song.
De l'album Berlin ?
Ouais, c'est ça. Où il commence par I'm gonna stop wasting my time. Ding, 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 ding. Et moi, comme la chanson s'appelait Sad Song et je comprenais pas toutes les paroles et que j'entendais ça, je me dis tiens, bon, il en a marre de chanter des chansons tristes. Je me dis tiens, je vais faire un truc un peu dans le genre. Mm-hmm. Beaucoup de nos premières chansons, comme beaucoup de groupes, on avait les chansons d'autres gens en tête. On se disait, on va essayer de faire une chanson à la No Fun des Stooges, à la. Mais je suis pas sûr que ça allait beaucoup plus loin que ça. Ou alors ça venait peut-être du fait qu'on réalisait que la forme de chanson telle qu'on la pratiquait,
couplet, refrain,
avec des progressions harmoniques, avec une narration qui passe par l'harmonie. Était en voie de disparition, c'est une réalité.
Mmh. Alors, on va revenir aux origines de Mustang, si vous le voulez bien.
Oui.
Hein. Alors, le groupe, c'est d'abord un truc de lycéen.
Ouais, c'est ça.
Qui rêve très vite de conquérir Paris.
Ouais, de faire du rock. C'est ça, on s'est rencontrés en seconde, dans les vestiaires de PS. Je sais plus, est-ce que Johan avait un t-shirt Nirvana ? C'est possible. On s'est mis à parler de musique. Et on a assez vite monté un groupe, ouais. Et assez vite, on a essayé de se discipliner. C'est-à-dire de répéter pas mal, idéalement 2-3 fois par semaine. Mm-hmm. De vite faire nos chansons, de vite les enregistrer. C'était même avant qu'il y ait des labels, tout ça. On avait enregistré un album autoproduit, qui heureusement n'est jamais sorti, mais en tout cas qui nous a permis de démarcher pour trouver des concerts, tout ça. Donc, ouais, ouais, y a eu une ambition assez vite, mais une ambition candide, si vous voulez. Par exemple, moi, je me souviens très bien, j'ai le droit de citer une autre radio que la vôtre. On n'est pas chez...
Oui, c'est possible.
Oui, tout ce que vous voulez.
Pour vous dire, c'est là que je me rends compte que je ne suis plus si jeune. C'est que la première fois qu'un morceau à nous est passé à la radio, eh ben on avait pris la bagnole de Johan, on était allé dans les locaux de Radio Campus Clermont, voir un type qui s'appelle Pierre Andrieux, que je connais toujours, qui écrit pour Concert Co notamment, et on lui dit « Ah tiens, on fait de la musique, ça te plaît ? Vous voulez pas le passer ?» Et il a dit « Ouais, ok, c'est bien, on le passe. » Et je sais plus, deux jours après, on est dans la bagnole, on met Radio Campus et notre morceau, il passait. Mais ça paraît une histoire de Cro-Magnon, ce truc-là. Pour aujourd'hui. Donc, c'est là que je me dis qu'on était un groupe entre, à cheval, un petit peu entre deux générations.
Oui, entre deux périodes. Ouais,
oui.
Il y avait, tout changeait, le marché changeait.
C'est ça, exactement.
La production changeait, il y avait le rap, il y avait l'électro. Et effectivement, les groupes de rock se faisaient lourder des maisons de disques, hein, tout simplement, de plus en plus. Oui. On signait moins, avec moins d'avance, moins de moyens.
Oui, c'est
après, il y a le home studio qui s'est étendu, Pro Tools. Ça, c'était une phase de transition, en fait. Alors, les influences de Mustang, quand vous commencez, c'est quoi ? C'est à la fois la chanson française, la pop synthétique, le rock ?
Pop synthétique, non. Le goût des machines, c'est pas venu vraiment par la pop. C'est venu par Suicide, des choses comme ça, et Kraftwerk. Enfin, si Kraftwerk, on peut dire que c'est de la pop. À la base, on s'est rencontrés autour de Nirvana, les Stooges, le Velvet Underground, en gros ces trucs-là. Et puis petit à petit, on s'est vraiment pris de passion pour le rock'n'roll 50s. Ça a été un truc important.
Ah, c'est venu après, c'est marrant. C'est,
oui, mais enfin après, à l'échelle d'un ado, le temps passe beaucoup plus lentement. Donc après, ça se trouve, c'était 6 mois. Je me souviens des premiers disques qu'on a pris à la médiathèque, qu'on se gravait en 3 exemplaires. Ça devait être Best of de Buddy Holly, du Body Delay, Gene Vincent, peut-être Elvis qui est venu un tout petit peu plus tard. Moi, Roy Orbison qui a été une révélation. Mais c'est venu assez tôt. Et là, on s'est dit, tiens, il y a un territoire qui n'est pas exploré par les gens, les groupes autour de nous déjà. Il y a un truc qui n'est pas dans la puissance des guitares saturées, tout ça, qui est plus dans une ligne un peu plus claire qui nous intéressait.
Oui, parce que c'était le grunge à l'époque qui
ah bah non, parce qu'on...
Non,
on était beaucoup plus tard. Nous, on était... Là, je parle, on est 10 ans plus tard que le grunge. On est au début des années... milieu des années 2000. Donc, on est plutôt soit dans... Soit dans le... Il y avait le début de cette espèce de néo-rock avec les comment ça s'appelle ? Les Strokes et tout ça. Et puis à Clermont, il y avait beaucoup de groupes de garage, mais garage assez musclé, quoi, garage tatouage, assez influencé par les Helicopters, des choses comme ça. Voilà, donc nous, on n'était pas dans ce...
C'est après. Et vos modèles en France, alors, c'était quoi ? Est-ce que Taxi Girl ou Bachung, c'est des gens qu'on comptait ou pas ?
Non.
Pas du tout.
Bachung, on a joué avec lui, mais c'est venu un peu plus tard. Moi, c'est des disques que j'offrais à ma mère, les Bachung.
Enfin,
les Bachung adultes, quoi. Les Bachung que moi, je trouve un peu les plus chiants, en réalité. Les Bachung des années 90, quoi.
Ouais.
Moi, je préfère ceux des années 80, je crois. Non, il n'y avait pas d'influence française particulière, si ce n'est qu'on avait grandi avec de la chanson française. Chez moi, il y avait un best-of du Club Dial de Gainsbourg. Il y avait un Guy Marchand, des trucs comme ça. Pas de Guy Marchand.
Non, mais je me souviens
j'adore Guy Marchand.
Je me souviens d'une photo d'un magazine où on vous avec Daniel Dark.
Oui, mais ça, c'était un truc préparé par le magazine.
Ouais, d'accord.
Après, c'est l'époque où il sortait Crève-Cœur, donc on l'avait entendu, parce qu'il passait à la radio. Mais c'était pas une influence. Il n'y avait pas beaucoup d'influence française. Et d'ailleurs, dans les textes, je pense que c'était notre spécificité. Il n'y avait aucune influence de la. D'une chanson française à prétention littéraire.
Brel, Brassens.
Non, tout ça, même c'était... si mes parents, ils avaient une cassette de. Ils avaient plusieurs cassettes de Brassens, que moi j'aime beaucoup, mais c'est plutôt pour les mélodies. Mais c'était pas une influence directe. Nous, on essayait. Moi, je me souviens, le premier choc que j'ai eu avec des textes de chansons, c'était le livret de Rocket to Russia des Ramones.
D'accord.
Que j'avais acheté, je sais pas, en 2002 ou 2003. Et je trouvais les textes drôles déjà. Et ça, c'est important parce que C'est une composante du rock qu'on oublie souvent, surtout en France, où on aime bien les rockers. Mmh. On aime bien Nick Cave, Daniel Dark, machin.
Okay. Un truc un peu tragique, sans humour.
Oui, mais on a une vision assez étroite. Mmh. L'humour, le tragique et le fait partie du rock aussi, mais l'humour en fait partie dès le début aussi. Ouais, ouais. Il y a une composante drôle dans cette musique qu'il ne faut pas oublier. Et donc, je trouvais les textes des Ramones géniaux, quoi. We were a happy family, des trucs comme ça. Avec les détails, ça sonnait bien, c'était court, c'était ramassé, c'était pas prétentieux. Il y avait des phrases qui sonnaient comme des slogans. Donc, je crois que c'est la première fois que je me suis dit, ah tiens, ça, peut-être moi, je peux le faire. Alors qu'évidemment, Ferré, tout ça, bon, on se dit pas qu'on peut le faire.
Mmh. Et Jean Lumera, alors, qui est auvergnat comme oui. vous, est-ce qu'il a compté ? Parce qu'il a sorti un album en 1999 qui s'appelle Mustang.
Mais pas du tout, pas du tout. Moi, je l'ai rencontré qu'une fois et très brièvement à un concert de Morrissey à la Copée. C'était pas du tout quelqu'un qu'on écoutait, mes parents l'écoutaient pas. Ouais. C'est plutôt aujourd'hui que qu'il m'arrive de l'écouter. Je sais pas trop par quel bout prendre sa disco qui est énorme.
Oui, il y a 35 albums, je crois.
Oui, c'est ça. Alors, je suis persuadé que c'est un très grand artiste. Je pense que... Voilà, mais non, il n'y avait pas de... Je ne savais pas que cet album existait quand on a choisi Mustang. On a choisi ça, vous savez, on avait je sais pas, 16 ans, 17 ans. On disait, ah, c'est cool, on écoutait les Shadows. On disait, ah, c'est marrant, Mustang. Moi, je déteste ce nom-là. Hein. Si je pouvais changer, je le changerais.
Eh ben, on va écouter un premier morceau de l'album Mega Phoenix de Mustang, intitulé La Porte au Nez.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
J'explique tout à la sécu. Mais on me ferme la porte au nez. Je branche cette fille qui a un beau cul. Mais elle me ferme la porte au nez. Est-ce que j'inspire le dégoût? Est-ce que ma bite elle a un goût? On me ferme la porte au nez. Dans ma poche toujours un CD. Mais on me ferme la porte au nez. J'suis toujours prêt à me solder. Mais on me ferme la porte. Et les majors et les indés, t'es trop varié, tout est trop spé. On me ferme la porte au nez. Oh, on me ferme la porte au nez. Ouh, on me ferme la porte au nez. Et les majors et les indés, t'es trop varié, tout est trop spé. On me ferme la porte au nez. Non, non, maman, je fais pas de télé. Ne me demande plus, s'il te plaît. Je fais pas les festivals d'été. Je serai chez moi tout juin, juillet. J'aurai jamais mes annuités. Je travaille pour l'éternité. Je me ferme la porte au nez.
Oh,
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Jean Felsin, le leader du groupe Mustang, dont on vient d'entendre un extrait du dernier album qui s'intitule La Porte au Nez. Donc on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. La chanson en parle, il y a eu beaucoup de galères, mais il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Mais il y a aussi des réussites totales, des instants de gloire, des morceaux définitifs, des moments de grâce, heureusement. Et notamment, beaucoup de concerts et une tournée avec Blondie.
Oui, j'y pense parce que j'ai appris ce matin hier, que Glenn Burke était mort.
Ouais.
Et que je pense que c'est en grande partie grâce à lui qu'on avait fait cette tournée avec Blondie.
C'est le batteur. Hein.
C'est le batteur de Blondie, oui. Oui, c'est vrai qu'on a fait ça. À un moment d'ailleurs où on était vraiment au creux de la... On avait sorti un EP qui intéressait personne, qui s'appelait Caribou Jean, qui était un espèce de tentative de revenir. Et là-dessus, je me souviens, on m'appelle... Je sais qu'au départ, on n'était pas leur premier choix à Blondie. C'était pour une première partie à l'Olympia. Et on fait le concert. Et ça leur plaît vachement. Ils disent, venez avec nous dans tout le Royaume-Uni. Donc on a fait 7 ou 8 dates en Écosse, au Pays de Galles, en Angleterre, avec eux. C'était génial. Dans des délires, des stades, des trucs...
Oui, c'était énorme déjà. C'était le grand retour de Blondie. Hein.
Ouais. Puis d'abord, c'est un groupe qui a une synthèse quand même de...
Oui, qui n'est pas si éloigné de vous, finalement.
Non, moi, je ne trouve pas non plus de pop. Il y a quand même des synthés, il y a des guitares, il y a des influences des années 60. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est clairement il a clairement un côté Kiss Moon, Glenn Burke. Et puis, c'est une collection de chansons incroyable, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est parmi tous les groupes issus du CBGB, moi, j'échange tout... tous les Talking Heads contre la disco de Blondie. Hein.
Ouais. Il faut savoir que donc en plus c'est une figure féminine, Debbie Harry,
immense chanteuse.
C'est assez rare à cette époque-là. Il y a Patti Smith et elle. Après c'est
pareil.
Tout.
J'échange tout Patti Smith contre même un disque solo de Debbie Harry. Moi. Même le disque solo de Debbie où elle a son casque là.
Bon voilà, une pensée émue pour le batteur du groupe qui a porté énormément au son de Blondie.
Ouais. Et qui était un mec. C'est marrant parce que je trouve qu'on l'observait en tournée, on a saisi des moments où il se chauffait les mains sur un flight case de tournée, tout seul en train de se chauffer. Et il avait, je sais qu'il jouait avec d'autres groupes où il conduisait le camion. J'avais l'impression qu'il avait gardé un truc de candeur et de d'énergie dans le rock qui est plus si courant, quelque chose d'un peu enfantin même. C'est-à-dire qu'il a gardé longtemps dans le visage.
Oui, c'est un fan définitif, c'est-à-dire qu'il continuait à accompagner des gens qui étaient un peu dans la galère. Il pouvait tourner grâce à lui, il apportait des moyens. Enfin, il s'est resté un amoureux du rock.
Ça, c'est vraiment beau. C'est à la fois un peu vain, enfin, tout ce que le rock peut avoir d'un peu vain aussi, et très beau, je trouve.
Alors, les mauvais sentiments, hein, les passions tristes, comme dirait Spinoza, comme la jalousie, le ressentiment, la colère... sont souvent à l'origine de vos meilleures chansons. Alors, en rock, on ne fait pas de bonnes chansons avec de bons sentiments, on laisse ça à la variété ?
Si, je pense qu'on peut... vous savez, moi, j'adore Buddy Holly, hein, c'est un maître pour moi, donc j'adore les chansons aussi naïves et tendres et d'amour. D'ailleurs, je préfère une chanson d'amour très, très naïve à une chanson d'amour...
Mais je parle de vos chansons, là, je parle de Mustang.
Oui, il y a beaucoup de chansons. Oui, c'est intéressant. Par exemple, on fait peu de chansons sur l'envie. Moi, j'en ai fait beaucoup. Sur
la jalousie,
la hargne. C'est intéressant. Et puis ça permet de sortir des phrases marrantes. Il y a aussi une dimension d'humour. En plein Porte au Nez, là, c'est très surjoué, hein. Mais ça me fait marrer. La dimension drôle, c'est important hein, quand même.
Alors, t'es trop variette ou t'es trop spé ?
Ouais.
On a entendu ça à l'instant dans la chanson. Est-ce que un certain milieu parisien vous a fait sentir vos origines provinciales ? Est-ce que vous avez senti du dédain,
non.
Du snobisme ?
Ça, c'est plutôt nous qui le sentions comme ça.
Ouais. Un complexe.
C'était un truc de code qu'on n'avait pas forcément. Il y a aussi un truc, moi, ça m'a frappé quand je suis arrivé à Paris. C'était qu'il fallait avoir l'air intéressant tout de suite. Je peux vous dire, hier, j'étais un espèce de Raoult complètement délirant, qui était les 20 ans de YouTube Music. Je ne sais pas pourquoi on m'a invité là. Donc Julien Gaulier, que je salue, le directeur artistique de Vietnam, m'a dit ah, il faut y aller, tu vas montrer ta tête. Bon, j'y vais. c'est une espèce d'événement absurde, d'ailleurs assez radin. Il y avait quelques pauvres hot dogs à me bouffer. Avec le fric qu'ils se font à YouTube Music, c'est quand même délirant.
C'est des milliards de vues. Hein.
Ah oui, c'est, ouais. Mais bon, ils savent pas faire. Ils ont qu'un panache, ces gens-là. C'est le genre d'endroit, il faudra arriver, brancher tout le monde et dire bonjour. Ouais, j'ai un projet, je suis artiste, tu vois, mon univers, c'est ça. Et il y a ce côté à Paris qui m'a frappé quand je suis arrivé de speed dating. Et je vois parfois certains jeunes artistes, et je peux les comprendre, ils arrivent et très vite ils essaient de dire ouais, tu vois, je suis comme ça, ouais, je suis un peu bizarre, je suis artiste. Et ça, on savait pas faire, moi je sais toujours pas vraiment faire. Mais je pense qu'en plus, il y a quelque chose de propre à ce pays où tout est centralisé à Paris, mais un truc qui date de l'ancien régime. Hein. Je pense que la cour de Louis XIV, c'était pareil. Il fallait être la nouvelle chose intéressante.
Faire de l'esprit, être malin.
Oui. Bon, moi, je pense savoir faire de l'esprit. parfois, d'ailleurs,
du mauvais
un
esprit.
Peu trop. Mais il y avait un truc d'attitude qui passait pas tout à fait. Mais je crois pas que... Non, au contraire, Paris nous a plutôt bien accueillis. Mmh.
Moi, je pensais, en fait, c'est quand la sortie de l'album de l'hommage à Bachung a été annoncée.
Ah ouais, ça...
pour moi, c'est un scandale, ça m'a foutu dans une colère noire. Donc, en fait, ils font une espèce d'appel d'offres, ils proposent à des groupes de reprendre des chansons de Alain Bachung, et on a le droit à des merdes de M, de Vanessa Paradis, de Raphaël, des morceaux totalement indigents. Vous faites une reprise remarquable de La Nuit Je Mens.
Mais parce que
elle n'est pas retenue. Elle n'est pas retenue.
Non, mais ça, c'est... Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus.
Je pensais à ça, quand même.
Bien sûr, non, mais moi, ça m'a... Mais bon, je m'en fous. C'est-à-dire que cette chanson aussi... Bon, il faudrait que les gens se calment deux minutes avec cette chanson. Nous, on voit la liste. On nous envoie la liste des morceaux de ce tribute album, donc, à Bachung. On voit que c'est pris... Alors, les gros poissons ont pris des chansons... Personne prend La Nuit Je Mens, parce que, vous comprenez, c'est comme avec Le Temps de Brel, faut pas y toucher. Moi, j'aime bien cette chanson, mais je m'en fais pas une montagne. Elle m'impressionne pas, cette chanson. Je la trouve belle. Voilà, point. On se dit, bah vas-y, on l'a fait en une journée, on en avait rien à foutre. Et ça, mais je pense qu'on le paye, on le paye pas de manière directe, c'est plus cosmique que ça, quoi. Mais il y a un truc, je pense que...
C'était un peu le caillou dans la chaussure, en fait. Parce que moi, je vois comment vous l'avez repris.
Ouais.
C'est très simplement, très humblement, pas d'orchestration, pas de gros effets.
Ouais.
Hyper senti, hyper émotionnel. Et je pense que ça a dû déranger, effectivement, ceux qui étaient dans la posture, dans la pose, dans l'artifice. Et en plus, il n'y avait que 12 morceaux.
Oui, mais je ne suis pas sûr que ça se passe de manière aussi consciente.
Mais je n'ai pas dit ça.
Ce panier de crabe qui est le métier de la musique, ça se passe... Comment vous dire ? Moi, j'ai une vision assez... parfois assez manichéenne de tout ça. Je sais que des fois j'ai tort, tout ça est plus compliqué, mais c'est pas...
Il n'y a pas
une tête, il n'y a pas un grand Manitou de la musique.
Ah non, mais
ce groupe-là, je vais l'écarter.
J'entendais
évidemment,
pas du
ça
tout,
se passe
ouais.
pas comme ça.
Ah non.
Je ne suis pas conspirationniste. Je pense qu'il y a Il y avait quelque chose de transgressif dans le fait qu'on fasse cette reprise comme ça, le cœur léger.
Mmh.
Voilà, parce que cette chanson est tellement victoirisée de la musique, est tellement intouchable. Le Bachung des années 90 est intouchable. C'est un grand artiste, Bachung, il n'y a pas de problème. Et en plus, c'était un type bien. C'est chiant, ça, c'est ce pays. Vous voyez, la chanson, quand je parle de chanson française, elle pèse une tonne, elle pèse que dalle. Bah, j'y pense que maintenant, mais je pense que je l'ai écrit en pensant à ce truc-là. Ouais.
Alors moi, je ne pensais pas à une théorie du complot non plus. Je ne pensais pas qu'il y ait un grand Manitou qui manipulait les ficelles du showbiz. Mais quand même, il y a un système qui fonctionne et vous en parlez. Il y a une excellente chanson de Mustang qui s'appelle « Fils de machin ».
Ouais.
Permettez d'en lire quelques extraits. « Fils de machin de connu de public. Fils de machin, toi, tu fais de la musique. Fils de quelqu'un, légende du cinéma. Fils de machin, toi, tu fais ta ratata. Fils de machin, on t'invite. Fils de machin, tu profites. » Fils de quelqu'un d'en avance sur son temps, fils de machin, tu cours après tes parents. Fils de quelqu'un qui a fait la révolution, fils de machin, t'es bohémien de salon. Fils de machin, tu hésites. fils de machin, tu imites. Moins drôle que papa, plus fade que maman, tu cours après ton nom, tu ne l'attraperas pas. Je pensais plus à ça, en fait.
Ouais, le truc des fils d'eux. Maintenant, on dit Nepo Babes. J'ai vu, ouais. On dit ça dans le cinéma, c'est assez marrant. Bon, ça a toujours existé. Après, ça n'empêche pas d'avoir du talent. Moi, j'en vis pas. Hein. J'en vis pas les gens qui ont un nom illustre dans leurs ancêtres, parce que c'est lourd à porter. D'ailleurs, à la fin, je dis qu'ils m'excitent. Ça me faisait
marrer. Oui, enfin, je trouve qu'ils ont souvent l'indécence de se plaindre. On peut penser quand même à Mathieu Chédy, Thomas Dutronc, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni, Lou Doyon, David Hallyday, Louis Garrel, Anthony Delon. On lit les interviews, ils pleurnichent quoi un peu.
Ah oui.
Ouais.
Vous savez, moi, la chanson, elle est vraiment partie comme souvent du titre. Hein.
Ouais.
Je trouve fils de machin, tiens, c'est marrant, fils de machin, fils de quelqu'un, fils de machin.
Ouais.
Je trouve le balancement. Et puis après, il n'y a plus qu'à dérouler, mais en vrai, je m'en fous. C'est pas un statement.
Mais vous avez composé pour Camélia Jordana,
ouais.
Joe Wedding, Carmen Maria Vega. Vous avez jamais essayé de composer pour eux, pour les aider à faire des meilleures chansons?
Mais vous savez, c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord,
ouais.
C'est pas, ça marche par appel. C'est-à-dire, quelqu'un me dit, et d'abord, ça arrive très rarement aujourd'hui. Hein, mais quelqu'un me dit, il y a un tel ou une telle qui cherche des chansons, qui n'est pas forcément auteur ou compositeur ou compositrice. Mmh. Et j'envoie un truc, si ça plaît, ça prend. Mais c'est pas spontanément que j'envoie des chansons à. J'ai jamais envoyé une chanson à. Je sais pas moi. À Françoise Hardy, quoi. Moi, je suis même un peu. Je trouve que ce système. Enfin, il y a certaines des artistes pour qui j'ai écrit. Je trouve qu'elles ont fait de meilleures chansons toutes seules que ce que moi j'ai pu faire pour elles, parce que c'est plus perso, parce que c'est plus... Mais il y a une époque où, en particulier avec les chanteuses féminines, où le métier le mettait toujours 15 mecs dans les pattes pour lui écrire des chansons et lui dire un peu ce qu'il fallait qu'elle fasse. Quoi. Je pense que ça a gonflé pas mal d'artistes. Certaines à raison, parce qu'elles avaient un talent d'autrice-compositrice que tout le monde n'a pas, et c'est pas très grave. Moi, je ne mets pas l'auteur-compositeur plus haut que l'interprète. Pour moi, les plus grands artistes, c'est des interprètes.
Elvis n'a jamais été foutu d'écrire une seule chanson.
Mais c'est pas grave, ça.
Ouais, voilà.
Franchement, je préférerais être Elvis qu'être Burt Bacharach.
Et entre Elvis et Roy Orbison?
Roy Orbison, il avait les deux talents. C'est-à-dire que ses plus belles chansons, c'est lui qui les a composées. Ça, c'est un truc, c'est la fatuité française dans toute sa splendeur, ça, de mettre l'auteur-compositeur au-dessus de tout. Parce que l'interprète, je veux dire, je sais pas moi, chanter comme Aretha Franklin, c'est un génie du présent dans l'interprétation tout le temps, quoi. Et ça, c'est plus fort que tout, je trouve. Faire des chansons, moi j'en fais plein, c'est pas très compliqué pour moi. C'est pas des fugues de Beethoven, quoi. C'est un peu du bricolage de fabriquer des chansons. De temps en temps, on en fait une géniale, si on a de la chance, si on en fait beaucoup. Mais c'est pas... C'est un artisanat. Moi, je dis toujours, c'est comme faire des maquettes de bateaux dans des bouteilles. On place les trucs, on tire les fils, on voit si ça se tient à peu près, on regarde le truc, c'est un petit objet qui peut être charmant, qui peut être joli, qui parfois peut être beau. Mais un grand interprète qui tape la note, les notes de Dieu, quoi. Les notes qui crèvent le cœur de tout le monde, ça, c'est autre chose. Je trouve que c'est... Moi, je place ça plus haut.
Mais c'est vrai qu'en France, on est sur une tradition de littéraire, d'écriture de chansons à texte, où l'auteur-compositeur apparaît un peu comme un démiurge, et puis finalement, l'interprète n'est qu'un instrument.
Oui,
ou un mannequin.
Les Français comprennent rien. Les Français sont d'une fatuité qui s'en fond dans leur rapport aux arts, à la culture, comme ils disent. Et moi, ça me fatigue. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Jean Felsine, le leader du groupe Mustang, qui vient de sortir un album qu'il faut absolument écouter, qui s'appelle Mega Phoenix. On va écouter un deuxième extrait de cet album qui s'appelle L'argent du beurre.
Ce que j'ai construit peut finir en cendres. Je chie des mélodies s'ils ne veulent rien entendre. Tous ces mots écrits, je devrais les rendre. Dieu donne les grâces et Dieu les reprend, quoi que tu fasses au milieu du temps. Face à l'autel, incline-toi. Tu ferais mieux d'avoir très peur, crois-moi. Implore le ciel, la clémence du roi. Tu n'auras pas l'argent du beurre, crois-moi.
Crois-tu pauvre, tu ne tiens pas le pinceau. Il est le vent qui souffle le sang et les eaux. Crois-tu écrire, ce n'est pas ton stylo. Suis la voix de celui qui marche sur l'eau.
Ces sommets gravis dans le froid novembre valent pas un radis, il faut redescendre. Car au paradis, rien n'est à vendre. Tu veux une médaille, mais tu n'auras rien. Que tu ailles, chante ce refrain. La clémence du roi. Tu n'auras pas l'argent du beurre, crois-moi.
Crois-tu pauvre, tu ne tiens pas le pinceau. Il est le vent qui souffle le sang et les eaux. Crois-tu écrire, ce n'est pas ton stylo. Suis la voix de celui qui marche sur l'eau.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. On vient d'entendre un morceau qui s'appelle L'argent du beurre du groupe Mustang, sorti de son dernier album Mega Phoenix. Alors Jean Felsine, pourquoi ce titre ? Est-ce à dire que c'est bien assez suffisant d'avoir reçu le don de la création, cette mystérieuse grâce, et qu'il ne faut pas demander en plus la gloire et la fortune ?
Non, bah c'est une chanson c'est d'interrogation spirituelle, hein, tout simplement. Moi, je vois la foi comme une forme de menace et pas comme une promesse, essentiellement. Voilà, c'est de ça que
parle. Il y a un péril à créer. On peut soit sauver, soit se perdre. Ou je me trompe.
Je sais pas. Je me replonge dans le texte parce que c'est pareil. Écoutez, c'est ça. Mais...
Tu crois peindre et c'est pas toi qui tiens le pinceau. Tu crois écrire, c'est pas toi qui tiens le stylo.
Oui. Mais c'est surtout
Suis la voix de celui qui marche sur l'eau.
Oui, oui, c'est vrai. Jésus, on peut le dire. Mm-hmm. Il a un nom. Non, c'est surtout de pas jamais croire qu'on est arrivé ou qu'on a réussi quoi que ce soit. Voilà.
Ou alors peut-être que ce talent peut s'avérer n'être qu'une vanité parmi les vanités, peut-être la pire si elle ne vise que la reconnaissance des autres.
Oui, bah de toute façon, il n'y a pas plus vaniteux que les artistes. Et les chanteurs, moi je suis chanteur, alors vous imaginez, c'est y a pas plus vain. Et le pire, c'est qu'on a besoin de l'être. C'est terrible ça. C'est terrible, comme un bon militaire, il a besoin d'aimer tirer.
Mais dans la création, il y a du don, il y a de la grâce, il y a quelque chose pour
parfois,
les autres.
Parfois.
Quelque chose pour les autres, c'est pas que soi, c'est pas que la gloire, et
peut-être.
C'est pas que le narcissisme
écoutez,
égotique.
Bon, moi je pense que j'ai une vocation de chansonnier, chanteur, qui vaut ce qu'elle vaut. J'essaie d'être dévoué, donc de travailler tous les jours idéalement et de le faire bien, voilà, comme un boulanger ferait bien son pain. Moi je pense qu'on a tous un rôle qui est plus ou moins comique, tragique ou héroïque. Je pense que Et un métier.
Vous tendez à désacraliser en fait l'artiste et l'art en ramenant ça à l'artisanat.
Oui, parce que la chanson, c'est de l'artisanat.
Voilà.
Moi, je suis d'accord avec Gainsbourg. Mais de temps en temps, c'est-à-dire qu'il faut... C'est comme dans les textes, je trouve qu'il ne faut pas chercher la poésie. Ça existe, hein, la poésie. Il y a des textes de chansons, les textes de Trenet, par exemple. Pour moi, certains, c'est ce qui se rapproche le plus de la poésie chantée. Sans la lourdeur de par exemple, certains trucs d'adaptation de Baudelaire par Ferré. Mais je pense qu'il ne faut pas la chercher. Il faut la trouver. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle vienne de manière, par induction, quoi. En faisant, de temps en temps, il y a une phrase qui peut être vraiment belle qui tombe. Mais je ne crois pas qu'il faille... faut pas chercher à être littéraire, il faut pas chercher à... Il faut faire au maximum. Et au bout d'un moment, c'est les vrais trucs, les beaux trucs, ça jaillit, quoi. Je le vois un peu comme ça.
Alors, la mort, merde, c'est fini. Où devrais-je aller? Memento Mori, L'argent du beurre, c'est que des chansons de Mustang que vous avez composées. Vous semblez avoir une conscience aiguë du temps qui passe, de la mort prochaine. Ça vient avec l'âge, les proches qui sont partis, ou c'est depuis toujours?
Bon, moi j'ai perdu mon père assez jeune, dans la vingtaine, j'avais une vingtaine d'années. Forcément, hein, on se dit, bon...
Le temps est compté?
Là, par exemple, je me dis que j'ai dépassé largement la moitié de ma vie. Donc c'est ça aussi que ça qui me presse à sortir pas mal de trucs, quoi. Je me dis, on sait jamais, je peux faire un infarctus, j'en sais rien. Donc c'est sûr que ça joue. Mais plus jeune, je l'avais un peu aussi, peut-être par clairvoyance ou préscience, je sais pas comment on dit. Parce que souvent, les trucs qui vont se passer dans notre vie, on a des signes. Moi, je crois beaucoup aux signes, hein, je suis assez mystique. Donc je crois qu'on a des signes avant-coureurs, des trucs. Donc c'est possible. Je crois pas non plus faire une musique, j'espère pas, neurasthénique, j'espère.
Non, pas du tout. C'est pas Dominica, hein. Non, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de vitalité dans Mustang. D'ailleurs, c'est pour ça que les textes, parfois, si on les lit comme ça, ça peut paraître cynique ou noir ou désabusé, ouais. Mais l'énergie de la musique derrière sauve la chose, et puis, comme vous l'avez rappelé, et c'est bien de le dire, que ce soit Buddy Holly, Chuck Berry, Little Richard, il y a une dimension de fête, de joie et de déconne dans le rock and roll. Donc qu'il faut effectivement garder et préserver contre le sérieux cardinal de la chanson française.
C'est pour ça qu'on met toujours une ou deux chansons vraiment stupides sur les disques. parce qu'il y a un truc de la stupidité du rock qui est belle aussi. Il suffit de le mettre à des enfants. Je ne dis pas que les enfants sont stupides, mais un peu. Vous mettez Little Richard à un gamin... Vous mettez Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, il va devenir furieux de rentrer dans une espèce de transe débile qui est magnifique, quoi.
Ah ouais.
C'est pas, pour moi, c'est une des essences du rock et qu'on néglige souvent un peu, en France en particulier.
Ah ouais. Alors, Mustang, c'est 5 albums, mais vous, Jean Felsine, vous avez sorti donc un mini-album et puis un album entier sous votre nom, en solo. Alors d'abord, première question, pourquoi des albums solo? Et après, ma deuxième question, c'est écrire pour Mustang ou écrire pour vous, qu'est-ce qui change?
Alors dans le cas de l'album solo que j'ai fait, c'était des chansons écrites au clavier et plutôt des ballades. Il y a toujours eu beaucoup de ballades sur les disques de Mustang, mais là j'avais essayé de rassembler un peu ça sur un disque. Et beaucoup de machines, j'avais envie de faire un disque de machines et de l'enregistrer seul. Mais pour l'écriture, il n'y a pas une énorme différence. Comme j'ai toujours écrit tous les textes de Mustang, je ne me suis jamais gêné pour mettre des trucs perso. Non.
D'accord. Parce que...
Je ne sais pas si j'aurais fait une chanson comme À Blanc avec Mustang, et encore, j'en sais rien. Peut-être que si.
Oui.
J'aurais pu.
Oui, À Blanc, une chanson très personnelle, très intime, sur la stérilité.
Ouais.
C'est ça, hein. Est-ce qu'il y a des, dans votre démarche d'écriture et de composition, il y a des limites ou des choses que vous interdisez ou pas du tout? C'est vraiment la liberté totale de la création?
Non, je m'interdis rien, mais je suis pas capable de tout.
Ouais.
Donc j'essaie de travailler comme un sportif travaillerait les muscles faibles ou son mauvais revers de tennis ou son pied gauche au foot, mm-hmm. bah, j'essaie de travailler ça. Par exemple, je ne me trouve pas très doué pour les images, au sens les métaphores, les trucs comme ça. Ouais. Or, parfois, une bonne métaphore, c'est cool. Donc, j'essaie de me forcer à ça. Mélodiquement, j'ai des faiblesses ou des automatismes que j'essaie de contourner. Donc, je travaille, quoi. Mais je suis pas capable de tout, non.
Vous avez commencé là.
Mais par contre, je m'interdis rien. C'est-à-dire que je sais rien, moi. Il y a jamais un mot que je me suis interdit. Au contraire, d'ailleurs, si plus il est gros, plus j'ai envie de l'écrire, forcément. Mm-hmm.
Vous êtes pianiste de formation ?
Oh, de formation, non. J'ai pris quelques leçons de piano adolescent avec une voisine géorgienne de mes parents.
Avant la guitare, donc ?
Avant la guitare. Mais ça m'a aidé pour les harmonies. Et puis, elle avait un songbook des Beatles. Donc, j'ai appris quelques chansons des Beatles mm-hmm. au piano. Et là, pour la composition, il n'y a pas meilleure école, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai, on parle beaucoup de textes et pas beaucoup de musique, mais... je passe un temps fou et avec Johan aussi, puisqu'il compose aussi certains titres, à se prendre la tête vraiment sur les mélodies. C'est dans ce sens-là où je trouve qu'on compose vraiment de manière pop, quoi. Plus que de manière chanson et plus que de manière rock, on essaie d'écrire des mélodies, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce qui retient le plus chez Mustang, d'ailleurs. C'est la mélodie qui reste, parce que les paroles, on peut les oublier.
Ouais.
On peut même oublier les arrangements. On ne s'appelle plus du son de la guitare ou de la batterie. Mais il reste la mélodie, la chanson dans la tête, sous la douche, voilà, ou dans la rue, en sifflotant. Alors, vous êtes en tournée actuellement, hein, dans toute la France, pas mal de dates. Mustang, en 20 ans, c'est combien de concerts à peu près ?
Je sais pas, 500, un truc comme ça.
Ouais,
mais c'est pas tant que ça. Hein. Moi, j'ai toujours regretté qu'on tourne pas plus. C'est la plus grande joie de ma vie d'être sur scène, de chanter nos chansons.
Ouais.
Et malheureusement, je trouve qu'on n'a jamais assez joué.
Attends, ça peut être fatigant, épuisant les tournées pour des musiciens.
J'en ai jamais été à ce point-là, moi.
Ouais.
J'ai jamais eu cette chance.
Ouais.
Si, quelques tournées alimentaires que j'ai fait avec d'autres trucs où on enchaînait 10-15 dates d'affilée, là, c'est on fatigue. Mm-hmm. Mais moi, j'en ai jamais été à ce stade-là. Même si Mustang, c'est quand même très fatigant à faire sur scène parce qu'on est. Il y a beaucoup, c'est tout en tension. Et
vous n'êtes que trois en plus.
On n'est que trois, donc il faut vraiment que personne lâche rien. C'est pas des parties de guitare évidentes à jouer en chantant, donc ça demande beaucoup de travail en amont. Mais moi, je regrette qu'on joue pas davantage.
Vous jouez à Paris le 11 juin au Trabendo.
Oui.
Donc on y sera. En tout cas, moi, j'y serai, c'est sûr. Alors, une question importante que je pose à tous les invités musiciens, hein, que ce soit Fred Lowe, Mirwais ou Rodolphe Burger, quelle différence faites-vous entre le rock, la pop et la variété ?
Ah,
s'il y en a une.
C'est une bonne question. Alors, je peux dire un truc, c'est que écrire une bonne chanson de rock, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est là qu'on voit l'immense talent des Rolling Stones, qui ont la plus belle collection de chansons de rock pure, quoi, je trouve. C'est très dur. C'est dur parce qu'on ne peut pas se reposer. Pour moi, en tout cas perso, écrire une petite chanson pop avec des accords, un peu guiré, une mélodie, une progression, c'est assez facile. C'est assez spontané. Mais écrire un truc comme... par exemple, là, une chanson comme Aérosol, ça a l'air de rien, sur le dernier disque de Mustang, c'est pas si facile à faire, parce que... même, bon, à la petite dimension pop, il y a quand même des... Mais...
Ça peut être
très générique, une chanson de rock, si on se contente d'un riff pentatonique et du... Pour le faire bien, c'est difficile. Ça tient pas mal aux paroles, finalement. Au côté slogan d'un refrain, c'est là que Mick Jagger est hyper fort, ou Chuck Berry est fort. Différence entre variété pop...
Entre pop et rock, disons, on va commencer par le pop.
Entre pop et rock. Bah, ce serait la différence qu'il y a entre les Beatles et les Rolling Stones, alors.
Ah, il y a des morceaux des Beatles qui sont vraiment
oui, il y a quelques
Revolution,
morceaux...
des trucs qui sont très très rock.
Oui, bien sûr.
Dans les Beatles,
mais...
et puis les Stones ont fait aussi des très belles balades.
Pop, c'est très vaste aujourd'hui, parce que la pop aujourd'hui, c'est du Dua Lipa, Billie Eilish ou... donc la pop englobe le rock, pour moi. Elle est au-dessus en termes de je sais pas comment dire, de groupes, si on faisait du darwinisme ou des groupes d'espèces, le grand groupe, ce serait la pop.
D'accord.
Ça dépend, parce que ça n'a pas le même sens dans tous les pays, quoi.
C'est ça, oui.
Ça n'a pas le même sens en Angleterre. Là,
je
en
pense
France...
que la pop n'a jamais existé en France. Il y avait soit le rock, soit la variété.
Oui, mais un type comme Étienne Dao, quand il est arrivé dans les années 80, se revendiquait de la pop. Mais
c'est l'exception dans la règle. Mais...
A raison, parce qu'il était plus axé sur la mélodie que sur le texte. Ouais. J'en sais rien. En tout cas, nous, ouais. On a toujours navigué entre les trois. Et ça me va très bien de ne pas me poser la question. Parce que je trouve qu'elle est castratrice, quoi, au bout d'un moment. Je supporte pas l'idée que ça on peut pas le faire parce que c'est pas dans les canons, que tel type de chanson faut l'enregistrer avec tel truc de guitare. Après on finit en Patrick Hudlin, quoi. Ce qui est pour moi le pire.
Ouais. Rock critique qui a fait des disques horribles.
J'ai pas écouté ses disques.
Tu as de la chance.
Il a écrit quelques bons articles, mais je veux dire l'idée d'une doxa dans le rock, c'est horrible et c'est complètement contre. J'ai jamais compris, moi, ça.
Les gardiens du temple, les
Mais c'est débile, c'est débile. Moi, j'adore le rockabilly, il n'y a pas de problème. J'ai plein de disques de rockabilly à la maison. C'est une musique que j'ai toujours adorée, que je n'ai pas pratiquée, contrairement à ce qui a été dit souvent, mais qui est une influence profonde. Mais c'est une musique minuscule, le rockabilly. C'est quoi? C'est 2 ans? C'est une poignée de labels, une poignée d'artistes et un langage musical qui est rudimentaire et qui est hyper...
Batterie, guitare, il n'y a pas de basse.
Bah, contrebasse, oui, si. Parfois, il y a de la batterie. Si, ouais.
Batterie, guitare, il y a des fois pas de bassiste dans les groupes de rockabilly.
Oui, mais en tout cas, je veux dire, c'est de figer ça et de se dire... c'est effroyable, d'autant que c'était déjà une musique qui était une fusion de différents styles, de hillbilly, de rhythm and blues, et ça vaut pour tout, moi, je trouve. Enfin, de toute façon, en art, c'est pas compliqué, hein, les modernes ont toujours raison. Enfin, je veux dire, entre les anciens et les modernes, entre ceux qui disent « on fige une forme classique », ils ont toujours tort. Ouais. Historiquement, c'est toujours eux qui se plantent. Donc, je comprends pas ça.
Ouais. Tenir le pas gagné, c'est ce que dit Rimbaud, en définissant la modernité. Alors, la chanson française est une chanson qui est sur le dernier album Megaphénix de Mustang. J'en cite quelques extraits. Bon, la chanson française, elle n'est pas bonne, elle sonne mal. Elle pèse une tonne, elle pèse que dalle. Elle se croit énorme, elle fait sa dame. Elle passe pas les bornes, elle passe pas la douane. Elle a plus d'hormones, de rôle social. La chanson française ne dit rien des hommes, ne dit rien de mal. C'est qu'on la bichonne, un genre idéal, on le met à l'aise, on lui pardonne, ce n'est pas normal. La chanson française, elle est tellement conne, elle sonne mal, elle pèse une tonne, elle ne pèse que dalle. Donc là, vous aviez vraiment envie de vous faire des amis en écrivant cette chanson.
Mais le problème, quand on me dit ça, ça fait toujours un peu oui. Ça fait un peu... ça fait un peu...
Il n'y a pas un peu trop de complaisance quand même dans la musique française? L'entre-soi, un système, on en parlait tout à l'heure avec...
Non mais je trouve qu'elle est restée très lisse, même quand elle croit qu'elle ne l'est pas. C'est simple, hein. Je vais peut-être citer le Johnny Rotten de La Bonne Période, qui disait qu'il avait envie d'entendre des chansons qui lui parlent de sa vie, quoi, de trucs vrais, quoi. Enfin, c'est con à demander. Les Anglais, ils y arrivent. France y est arrivée. La chanson française n'a pas toujours été aussi encadrée comme ça par une belle clôture avec des lions en or. Il y a existé des tas de chansons françaises plus bizarres, plus crues, même à des temps très anciens. Ouais.
Mais est-ce que c'est pas très précisément le rap qui a fait un hold-up sur la chanson française? Et tant mieux d'ailleurs.
Ils l'ont gagné à la loyale, hein, leur trône. Moi, ça m'intéresse plus le rap. Ça m'a beaucoup passionné, mais ça m'intéresse plus parce que ça a gagné. Donc moi, les gagnants, ça m'intéresse pas. C'est comme les révolutions qui gagnent, quoi. C'est toujours la merde après.
Ouais.
Mais ils ont gagné leur bataille à la loyale par des moyens indépendants, sans dépendre de l'argent, des subventions, tout ça. Donc, ils ont mérité leur victoire.
Et voilà. C'est souvent très bien écrit, il y a un vrai travail sur le texte.
Bah, il y a des, bah, pour moi, certains des plus grands auteurs de chansons français, c'est des rappeurs, ouais, bien sûr. Ouais.
Il y a un très beau duo qui clôt l'album Mega Phoenix de Mustang avec Arthur Teboul.
Ouais.
Pour en parler un peu de comment c'est venu.
En fait, j'avais cette chanson un peu bizarre, donc Aéroport, où il y avait seulement mes couplets. Et c'était vraiment des ruminations en boucle, ça me faisait marrer. Parce que je déteste vraiment les aéroports. J'aime beaucoup l'avion. Une fois qu'on est dans l'avion, c'est cool. Mmh. Mais l'expérience de l'aéroport et le...
Bah surtout à Beauvais, ouais.
Surtout, mais même partout, et je trouve que tout devient comme ça. C'est-à-dire, je pense que les grands gagnants de ce monde, c'est les fabricants de tourniquets électroniques. Et maintenant, il faut passer des tourniquets pour tout, quand on prend le train. C'est-à-dire que je trouve que une des plus grandes libertés qui est celle de circuler et disparaît, quoi. Je trouve ça effroyable. Mais bon, passons. J'avais cette chanson un peu redondante, et donc c'est Nico, le batteur, qui a dit, tiens, ce serait bien d'en faire un duo. On a pensé à pas mal de gens. Et on s'est dit que Teboul, ce serait marrant parce qu'il a une image d'un lyrisme beaucoup plus positif que le mien. Et que ça ferait un truc, ça créerait une dynamique intéressante, même vocalement, puisque la chanson, je la chantais vraiment de manière très monotone, et que lui allait aller dans l'emphase, et que ce serait marrant. Donc il a accepté tout de suite.
Mais c'est le chanteur de Feu, Chatterton. Ouais,
c'est ça, ouais. Et voilà.
Mais c'est un remarquable duo. Il y a aussi un titre qui s'appelle Les Barbelés Américains.
Barbelés tout court. Barbelés, tout court.
Ah, Barbelés, pardon. Et donc c'est l'époque qui pique.
Je sais pas, franchement, cette chanson. Pff. Bon, après, finalement, elle revient dans l'actu, parce que là, quand on voit que l'autre, il veut annexer le Groenland ou je sais pas quoi.
Et le Canada.
Et le Canada, ouais.
Et le canal de Panama.
Mais.
Canal de Suez, pardon.
Mais bon. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant. Il y a souvent des chansons de Mustang que moi, je trouvais à la ramasse. Celle-ci, quand on l'a faite, j'aime beaucoup la mélodie, l'arrangement, tout ce qui n'est pas le texte, quoi. Mais le texte, je le trouvais quand même un peu simplet. Mais finalement, c'est revenu dans l'actu et ça nous est arrivé plusieurs fois, ce genre de truc. Donc peut-être que, malgré nous, on a une prise avec l'actu.
Peut-être que tu es prophète.
Oh, bah, faut pas me le dire trop, ça, parce que moi, j'ai déjà des...
prédispositions.
Peut-être que je vais finir dans un asile à me prendre pour Isaïe ou je sais pas qui.
Et j'en profite pour remercier Loredana Farina qui était de l'autre côté. Merci. De la vitre. Merci Loredana.
Merci Jean Felsine du groupe Mustang. Merci. D'être venu nous parler de l'album Mega Phoenix qu'il faut absolument écouter. En concert le 11 juin au Trabendo. Prenez vos places. Merci, au revoir.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.